Vous êtes à l'écoute de Radio Royan et du magazine de reportage à portée de voix.
Nouvelle proposition artistique au lieu d'art, la Halle Jean Gattegnaud, qui sera aussi une exposition au festival, un fil continu pour cet été. Et nous allons aborder cela en compagnie de l'artiste Nicolas Dauban et Giulia Torati pour nous introduire aussi cette exposition qui traite d'un thème bien intrinsèque, on pourrait dire Overcore, que vous allez nous préciser. Et puis aussi ce titre qui nous interpelle pour le moins, que l'on précisera avec l'artiste aussi. S'ils avaient pu, ils auraient emporté la lumière et l'eau. C'est bien le titre de l'exposition, Giulia ?
C'est le titre de l'exposition, oui, avec une référence très forte et très ancrée dans le territoire. Donc effectivement, le travail qu'on a démarré avec Nicolas, il est de longue haleine. On a commencé à échanger sur ces projets d'exposition il y a plus d'un an maintenant. Quand j'ai découvert en fait que Nicolas, dans ses recherches, avait commencé à travailler, en tout cas à s'intéresser à la résistance, la vie des maquisards, cette lutte pour la liberté pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, tout naturellement, je l'ai invité dans le Vercors, quand même un haut lieu de la résistance et de cette mémoire en France, et puis bien au-delà. Donc, effectivement, l'exposition que vous allez découvrir, elle est vraiment ancrée donc dans le Vercors, dans cette histoire. On a pu avoir un soutien, on va dire, scientifique très précieux de la part du musée départemental de la résistance à Vassieu-en-Vercors, de Gilles Vergnon, qui est un historien vraiment spécialiste de cette histoire contemporaine, et en particulier du maquis du Vercors, et aussi des historiens du Mémorial national de la prison de Montluc, donc qui est à Lyon, mais qui était vraiment le point final de tous les prisonniers, prisonniers faits dans le Vercors et dans la région plus globalement, mais un lieu qu'aujourd'hui porte une triste mémoire de cette époque-là aussi. C'est vraiment un travail qui s'est tissé et des échanges qui ont eu lieu très fructueux entre l'artiste et ses chercheurs et qui aujourd'hui donnent lieu à l'exposition qu'on va découvrir. Et qui justement est très intéressant dans cette façon de travailler, c'était que effectivement, Nicolas, lui, il n'est pas historien, il est artiste. Ce qu'il produit, c'est forcément des œuvres, des artefacts. Il y a forcément un déplacement de la source, de la soi-disant source objective qu'il travaille. Et l'effet d'avoir quand même cet ancrage fort et juste dans l'histoire, ça a permis, moi je trouve en tout cas, d'avoir des œuvres qui ont vraiment une force très symbolique, très significative, justement parce qu'il a opéré un décalage ou une transformation, transfiguration, mais avec un point de départ qui était très, très juste, c'est le mot que je pense est le plus approprié. C'était un projet à plusieurs tiroirs, à plusieurs étapes. Nicolas était quand même en résidence pendant plusieurs semaines ici, à Pont, mais plus en général dans la région. Donc c'était vraiment un travail aussi, on peut dire, en immersion pour s'imprégner à la fois effectivement de l'histoire, mais aussi des lieux. Parce qu'une des pistes qui a été choisie pour cette exposition, c'était vraiment d'avoir un parallèle entre les paysages, les lieux, les endroits naturels, forcément, parce qu'on est quand même à la montagne, et justement comment ces paysages et ces actes, ces événements de barbarie, comment, voilà, quelle relation, quelle influence, comment mettre en relation aussi cette nature qui perdure même après avoir été les décors de certains événements et faits assez dramatiques. Voilà, donc c'était un peu l'entrée aussi qui a été choisie.
Nouveau projet, Nicolas Dauban, bien le bonjour. Je vous laisse faire un petit portrait de vous-même, ce qui vous tient à cœur dans, dans votre travail, l'aspect artistique, les matériaux envisagés?
Bonjour, donc je m'appelle Nicolas, je suis artiste, j'ai 36 ans, je suis né dans le Tarn, dans une petite ville qui s'appelle Lavaur, et en fait tout part d'une chose extrêmement pragmatique, c'est que refusant un peu le monde du travail, j'entends le bureau, l'atelier, l'usine, tout ça, je décide de me lancer dans des études d'art, sans trop savoir pourquoi ni comment. En tout cas, j'avais la sensation de pouvoir trouver un espace de liberté dans cette zone, voilà, qui est l'art, et plus spécifiquement l'art contemporain, parce que j'avais la sensation aussi que dans la pratique de l'art contemporain, beaucoup de gestes sont permis, de matériaux peuvent être utilisés. Et quand je me mets à travailler sur des pièces, des sujets, etc., je choisis très vite la question de la contrainte. C'est-à-dire que j'en reviens à ce qui me portait énormément souci quand j'étais jeune diplômé du bac à 19 ans. C'était de me dire que la contrainte, c'était vraiment pas mon truc du tout, mais c'était extrêmement viscéral. Donc mon travail artistique parle de cette question de contrainte et surtout de savoir comment est-ce qu'on la vit, comment est-ce qu'on fait avec et vers quoi ça va quand on est obligé d'essayer de la contourner, etc., etc.
Et là, la contrainte, en l'occurrence, on peut la préciser en ce qui concerne ce projet.
Ouais. En fait, mon travail qui s'oriente sur la question du monde carcéral, c'est-à-dire de son observation, des allers-retours que j'ai pu faire en tant qu'intervenant ou visiteur, professeur d'art plastique, etc. Ben, rapidement, j'ai élargi cette question de la contrainte. Et dans mes recherches, la réaction des résistants en temps de guerre m'a paru un exemple quelque chose de relativement exemplaire vis-à-vis de cette attitude-là. Et en gros, disons que la contrainte, je m'étais donné deux choses en venant ici. C'était de vouloir définitivement faire rentrer la question du paysage dans mon travail, chose que je touchais du doigt, mais sans trop affirmer les choses. Voilà, c'était très épisodique. Et d'essayer aussi de questionner les agissements des résistants pendant la période d'occupation. Voilà.
Alors justement, la période des résistants, l'occupation, de nombreuses rencontres qui se sont déroulées, plusieurs étapes, une immersion. Il fallait donc choisir aussi un axe artistique pour développer ce projet. On peut en parler, ce qui vous en fait, a retenu vraiment, mobilisé votre attention et puis peut-être aussi déployer l'imaginaire.
Ce qui a retenu mon attention, c'est finalement la première visite que Julia m'a fait faire. C'est la grotte de la Luire, qui a vraiment marqué mon entrée dans mes recherches dans le Vercors. C'est-à-dire, on se dirige vers cet hôpital de fortune, qui est un des endroits et un des événements très forts des actions, on va dire, nazies sur le territoire, c'est-à-dire avec l'assassinat de maquisards, de blessés, malgré la présence du drapeau à la Croix-Rouge. Et en fait, ce qui m'a vraiment marqué dans cette histoire-là, c'est qu'il y avait plusieurs entrées possibles. La question de la véracité, c'est-à-dire la légende dit que un certain Bourne Branchu aurait dénoncé le lieu, la présence en tout cas de personnes en train de se faire soigner là-bas. Et finalement, peut-être qu'après quelques échanges avec historiens et consultations de documents, on s'aperçoit que peut-être c'était pas le cas, que simplement c'était une vérification de savoir s'il y avait quelqu'un là-bas, puisqu'il n'y a que 2-3 éclaireurs qui sont venus au début, qui les ont découverts, enfin bref, etc. Et en tout cas, cette question de la véracité m'intéressait dans le projet, mais aussi de manière purement extrêmement sensible et personnelle, on va dire. C'était un hôpital. Et la question des plantes et de l'apparition du paysage dans mon travail, ben, elle a commencé par une résidence que j'ai fait il y a 2 ans, que je n'ai jamais pu aboutir en termes d'effectifs de travail, en fait, de présence d'œuvres, qui était de dessiner des plantes qui sont présentes dans des soins palliatifs. Voilà. Et donc, j'ai raccroché cette résidence-là en faisant un trait d'union par la question de l'hôpital. Et de là, j'ai pu dérouler un petit peu toute mon entrée dans les histoires du Vercors. La question du paysage, elle s'est aussi faite à travers des lectures partagées et conversations avec Julia, de se poser la question qu'à un moment donné, le paysage mémoire, on va dire, c'est-à-dire le paysage où il y a eu la présence, où il y a aussi, on peut dire au présent, encore dans certaines zones en France et dans le monde, où il y a eu conflit, où il y a eu même massacre, où il y a eu zone compliquée, on va dire. En tout cas, cette question du paysage, elle était extrêmement importante parce qu'on pouvait se poser enfin des questions essentielles. Alors, je me répète un peu sur le mot question, mais finalement, c'est ce qui a guidé un peu tout ça. Et la question principale, c'était de se dire comment peut-on représenter le paysage et pourquoi représente-t-on le paysage dans lequel il y a quelque chose qui s'est passé. Et ces questions-là ont structuré l'exposition. Mais l'exposition, elle est structurée à plusieurs entrées. Elle est aussi structurée pour la question du parcours de l'humain, qui n'est globalement, en termes de figure en tout cas, pas du tout présent dans l'exposition, mais il est présent en creux, il est présent par son absence, et notamment avec cette œuvre qui est faite en collaboration avec le Mémorial national de la prison de Montluc, avec ce carrelage qui a été foulé par bon nombre de personnes, etc., etc., par des mots qui ont été écrits, par des mots qui ont été retranscrits, et cette présence humaine qui est écartée en termes de figure, elle fait partie quand même de la structure intégrante de l'imagination de cette exposition. Et puis de toute façon, on se retrouve d'une salle à l'autre en passant par la salle centrale. On se retrouve à parcourir Val-Chevrière, à la Grotte de la Luire, au Mémorial national de la prison de Montluc, qui fut à l'époque la prison de Montluc tout court. En tout cas, signifie aussi un certain parcours des résistants qui ont été ensuite déportés, etc., etc. Donc la question du mouvement.
Avec des échos, hein, ensemble, d'un point de vue plastique, entre le carrelage de la prison de Montluc, avec aussi le contexte local, on sent qu'il y a des analogies.
Oui, c'est vrai qu'il y a un objet aussi qui est présent dans l'exposition, qui est un objet donc qui n'est pas une œuvre d'art, qui n'a pas été produit par Nicolas, mais qui était extrêmement fort à la fois d'un point de vue symbolique et qui a en résonance aussi plastique avec d'autres œuvres qui sont présentées dans l'exposition, qui est assez, je dirais, étonnante. C'est le drapeau original qui était donc affiché dans la grotte, donc drapeau de la Croix-Rouge. Donc un drapeau qui, a priori, aurait dû empêcher le massacre, voilà, qui n'a pas été respecté dans sa force symbolique, et donc qui est reproposé dans cette exposition avec aussi d'autres lieux et d'autres échos qui peuvent être pas seulement symboliques et liés à cette histoire-là. Voilà, donc c'est...
Il semble, je dis peut-être des bêtises, hein, mais... Il y a une forme de positif-négatif entre des fois des objets qui sont côte à côte ou enfin on retrouve une sorte de renvoi comme ça, non ?
Oui, en fait, c'est vrai que c'est entre les analogies de couleurs, entre le drapeau de la grotte de la Luire et les carreaux de la prison de Montluc qui se retrouvent donc sous la présence sous forme de sérigraphie. Mais ce qui est intéressant, c'est les petites histoires que l'on peut arriver à se raconter avec ça. Par exemple, le blanc. Originel du drapeau, on suppose que c'était avec un morceau de drap blanc ou que sais-je, qui se retrouve sali, se retrouve jauni, et cette salissure qui vient jaunir le papier vient à peu près toucher la couleur du jaune des carreaux de ciment. Et ça, moi, je trouve ça assez intéressant. C'est-à-dire que, comme si la question d'avoir éprouvé et la salissure pouvait me permettre, moi, de faire des analogies formelles et aussi positives, négatives. C'est-à-dire qu'il y a, il y a des choses qui peuvent s'imbriquer comme ça parfaitement, alors qu'à l'origine, c'est quand même très très loin. Et c'est peut-être aussi présent dans une des salles où l'on voit une petite plante, un petit sapin qui cherche en tout cas à capter la moindre lumière qui sera proposée dans une des salles, donc par une lampe qui diffuse des UV nécessaires à sa croissance et à sa survie en tout cas. Et en présence d'un très grand mural qui fait 3 mètres par 3 mètres, dans lequel est inscrit en allemand, et je ne me risquerai pas la prononciation, uniquement à la traduction, le soleil brille. Et donc ici aussi, on a la question d'un nuage noir et de mots qui prononcent justement la question de la lumière, et cette plante qui se retrouve complètement petite, minime vis-à-vis de ce grand mural-là. En tout cas, les pièces s'imbriquent. Ce que je voulais préciser, c'était que dans le travail que je propose là, évidemment, il y a de l'empathie. C'est clair. De toute façon, comment ne pas en avoir vis-à-vis de ce qui s'est passé? Mais il n'y a pas non plus de proposition qui soit pro-résistance, pro-quatrième république ou anti-nazi, etc. Il y a juste... Ce qu'on a essayé de faire finalement avec Julia, parce qu'il s'agit quand même d'une exposition qui est vraiment travaillée en conversation de manière continue depuis plusieurs mois, c'est de faire une proposition avec en essayant d'attraper des jeux formels, des jeux aussi intellectuels et de mémoire. Je pense qu'on la respecte parce que de toute façon, on se documente à 100%, mais on se permet aussi d'avoir une certaine liberté en présentant les choses comme elles nous paraissent évidentes avec notre regard. Et il y a des rapprochements qui sont faits de manière très directe. Le soleil brille, c'est une chanson des parachutistes allemands qu'on rapproche d'un petit arbre de Valchevrière. C'est un raccourci, mais qui est aussi une liberté d'interprétation.
L'idée, c'était quand même de ne pas, se figer, de vraiment avoir un discours qui puisse être ouvert et des formes aussi qui, en quelque sorte, peuvent évoluer selon ce que le visiteur saisit, en fait. Et ça, c'est notamment vrai pour une pièce qui sera présentée dans la première salle, qui est une reproduction... pas tout à fait fidèle, mais quand même en reproduction d'une certaine partie d'archives de deux rescapés, de survivants, de témoins des événements de la Grotte de la Luire, de témoignages complémentaires, parce qu'il y en avait un qui était plutôt un médecin qui était plutôt au village, et puis une infirmière qui était cachée un peu plus loin. Donc, proposant cette lecture de ces deux témoignages qu'on a retrouvés dans les archives de la Drôme, formant une narration assez explicite de ce qui s'est passé ces jours-là, et bah forcément, on aura une réaction, enfin, on ira stimuler l'imagination du visiteur qui pourra projeter à son tour une certaine version de une certaine lecture, en tout cas des images dans sa propre tête de ces événements-là. Donc, ça aussi, c'était quand même quelque chose qui guidait le travail, c'est-à-dire de vraiment pas figer, pas immobiliser, pas rester dans une histoire passée, mais vraiment d'être dans quelque chose d'organique, des vivants, en mutation, etc. Donc ça, je pense que c'est important aussi de le dire.
On va aborder le titre, puisque ça a été effectivement aussi une facette importante dans votre travail, à savoir des éléments oraux, des écrits, des choses comme ça, qui ont nourri l'exposition, Nicolas Dauban.
Oui, Julia. D'accord. Les titres étaient effectivement étaient très importants pour comprendre aussi la façon d'aborder ces questionnements-là. Donc, je répète, s'ils avaient pu, ils auraient importé la lumière et l'eau. Donc, il s'agit d'une phrase qu'on retrouve dans les musées de la Résistance à Vassieux et dans les panneaux écrits par les fondateurs du musée, Joseph Lapicherella, donc ancien combattant, ancien partisan, qui écrit cette phrase, un commentaire d'une lettre d'un soldat allemand, Rodolphe. Donc aux lettres que ce soldat écrivait à sa famille et dont il relatait donc de ce qui venait de se passer dans le Vercors, à Vassieu en particulier. Et c'est aux phrases chargées quand même d'une certaine colère, mais si extraites de son contexte, donc quelqu'un qui ne connaît pas la genèse de l'exposition, etc., juste en la lisant, bah, il y a en référence à des éléments naturels assez importants, la lumière, l'eau, hein, c'est quand même assez essentiel. Il y a un côté un peu presque lyrique qui peut être lu ou interprété ne connaissant pas le contexte. Donc c'est cette ambivalence qui était intéressante entre une phrase qui était vraiment direct, qui exprime une colère, qui exprimait un ressenti vraiment de d'animosité envers cet occupant qui commettait des actes vraiment de barbarie pure, et puis quand même paradoxalement retomber dans quelque chose de plus vraiment évocateur, lyrique, vraiment avec ses côtés liés aux éléments naturels.
Bien, merci beaucoup pour cette amorce, aller voir l'exposition.
L'exposition, elle dure jusqu'au 31 août, donc toujours accompagnée en plus de notre médiateur qui est présent aux horaires d'ouverture. Donc je les rappelle, les mardis et les vendredis de 16h à 19h, et puis mercredi et samedi, 9h midi et 14h-18h. Donc il y a quand même presque 3 mois pour visiter cette exposition. Profiter aussi de temps estival pour visiter après les lieux qui inspiraient la production.
Alors, merci beaucoup, Giulietta Orati. Merci beaucoup, Nicolas Dauban.
Merci.